Vous écoutez, on lit pour vous.
Elon Musk et le mythe de l'omni-génie. Un texte de Gautam Mukunda de Bloomberg, paru le 15 avril 2025 dans la presse. Les mésaventures d'Elon Musk avec le département de l'efficacité gouvernementale, DOGE, pourrait être l'exemple ultime d'un biais important dans la façon dont nous percevons les dirigeants. Il s'agit de notre tendance à croire que les compétences et les réalisations sont transférables, que quelqu'un qui excelle dans un domaine sera tout aussi impressionnant dans d'autres. J'appelle ce super-pouvoir exceptionnel, bien qu'imaginaire, « omni-génie ». En réalité, cependant, le succès n'existe pas sans contexte. S'il n'y a aucun plaisir à regarder Musk mettre le gouvernement américain en difficulté, cela permettra peut-être de clarifier le lien crucial qui existe entre les deux. Musk et le DOGE montrent comment un leader peut être habilité par le fantasme de l'omni-génie. Musk a certainement accompli des choses remarquables. Malgré ses difficultés actuelles, Tesla a transformé le secteur automobile et il est presque impossible de surestimer l'impact révolutionnaire de SpaceX sur l'industrie spatiale. Mais, une fois qu'il a rejoint le gouvernement Trump, l'histoire a changé. Pour ne citer qu'un exemple notable, le DOGE a licencié des centaines d'employés de l'Administration nationale de la sécurité nucléaire, l'agence responsable de la production et de la sécurité des armes nucléaires et de la gestion des sites de déchets nucléaires. Mais l'administration Trump a annulé bon nombre de ces suspensions moins de 48 heures plus tard, lorsqu'est apparu clairement le rôle de ces travailleurs et à quel point il est important. Les employés du DOGE arrivent sans avoir la moindre connaissance de ce dont ces départements sont responsables, a déclaré à l'époque le directeur exécutif de l'Association pour le contrôle des armes, Daryl Kimball. De même, les coupes dans les programmes de soins de santé pour les intervenants et les survivants du 11 septembre ont été annulées par la suite, ainsi que les coupes dans les bureaux de la Sécurité sociale. Même le site web du DOGE a dû supprimer ses 5 plus grandes annonces d'économie après que les médias eurent signalé qu'elles étaient erronées. Quoi que vous pensiez du DOGE, nous devrions tous être d'accord sur le fait que de déstabiliser l'agence responsable des armes nucléaires américaines de la sorte est un exemple d'incompétence. Et Musk n'est pas le seul. Il est devenu habituel de voir des personnes ayant réussi dans le secteur privé régurgiter la propagande russe sur l'Ukraine ou répandre des théories anti-vaccins qui ont été démenties. Il ne s'agit pas seulement du monde des affaires. Le mythe de l'omni-génie est profondément ancré dans notre culture. Dans l'univers de Marvel Comics, Walt Disney, le super-héros Bruce Banner affirme qu'il a 7 doctorats, un raccourci absurde qui prouverait son génie multiple. À la télévision, combien de fois avez-vous vu un personnage expert en science capable de tout faire, de séquencer de l'ADN, mais aussi de pirater un ordinateur? Et n'oublions pas les célébrités auxquelles beaucoup d'entre nous font confiance pour nous vendre tout et n'importe quoi, des croustilles aux voitures en passant par les médicaments sur ordonnance. Mais, en dehors des domaines qui leur ont apporté le succès, pourquoi écoutons-nous ces personnes? Et pourquoi devraient-elles occuper des postes de pouvoir dans des domaines où elles n'ont que peu de connaissances ou d'expérience? L'explication réside dans un biais cognitif connu sous le nom d'effet de halo. Un phénomène selon lequel le fait qu'une personne possède une qualité positive importante tend à fausser la perception de ses autres caractéristiques. En effet, nous établissons souvent des corrélations entre des caractéristiques sans rapport entre elles, telles que l'intelligence, l'attrait physique, les compétences sociales et la loyauté. Ainsi, si une personne est particulièrement séduisante, nous avons tendance à la considérer comme plus intelligente, même si rien ne permet de l'affirmer. L'effet de halo nous fait attribuer le succès uniquement à la personne, plutôt qu'à la combinaison de cette personne et du contexte dans lequel elle évolue. Or, le contexte est pratiquement toujours d'une importance capitale. C'est la raison pour laquelle les dirigeants qui changent de secteur d'activité ont souvent du mal à s'imposer. John Sculley a brillamment vendu des boissons gazeuses chez Pepsi, mais a failli faire dérailler Apple. Ron Johnson a révolutionné le commerce de détail chez Apple, puis a fait couler JCPenney. Dans les deux cas, les entreprises dirigées par ces PDG ont perdu plus de la moitié de leur valeur marchande pendant leur mandat. Boris Groysberg et Nitin Noria, professeurs à la Harvard Business School, ont étudié les personnes recrutées chez GE, à l'époque le summum de leadership américain, pour devenir PDG d'autres entreprises. Ils ont constaté que les dirigeants ne réussissaient que lorsque les défis auxquels leur nouvel employeur était confronté étaient similaires à ceux qu'ils avaient rencontrés chez GE. Le contexte est si important qu'il a un effet considérable même lorsque les personnes restent dans le même secteur d'activité. D'autres recherches menées par Groysberg ont montré que lorsque la plupart des analystes financiers vedettes changent de banque, leur performance chute parce que les compétences qui leur ont permis d'exceller étaient en fait spécifiques à leur employeur d'origine. Et mes propres recherches montrent que les dirigeants qui viennent de l'extérieur d'une entreprise, par opposition à ceux qui sont promus de l'intérieur, ont tendance à produire des résultats très variables. Parfois, ils réussissent brillamment, mais le plus souvent, ce sont des échecs désastreux. En raison de l'importance du contexte, la réussite dans un domaine ne fournit pratiquement aucune information sur la capacité d'une personne à réussir dans un autre domaine. Il est tout de même possible de changer de domaine avec succès. Deion Sanders, après tout, a joué à la fois au Super Bowl, NFL, et en série mondiale au baseball majeur, MLB. Mais les chances sont minces. Alors, cessez de voir des halos. Être un grand investisseur ou un grand PDG ne fait pas de quelqu'un un expert en politique étrangère, en biomédecine ou en taux d'imposition. La réussite est importante, mais il est tout aussi important de comprendre que les limites des capacités d'une personne sont généralement beaucoup plus étroites qu'on ne le pense. C'était Elon Musk et le mythe de l'omnigénie, un texte de Gautam Mukunda de Bloomberg, paru le 15 avril 2025 dans La Presse.
Mes pants de queer. Un texte de Philippe Granger, paru le 23 avril 2025 dans le magazine Fugue. C'est afin de répondre à une certaine carence en matière d'espace littéraire LGBTQ+ à Montréal que les artistes Antoine Vogler et Dustin Ariel Segura Suarez ont fondé ensemble Mes Pants de Queer, une librairie qui, bien qu'existante depuis maintenant 4 ans, a un local depuis seulement quelques mois, en plus d'être responsable du magazine LBRTH depuis peu. Alors que Mes Pants de Queer gagnent en popularité, ces deux fondateurs, aussi amoureux, ne manquent pas d'idées et d'ambition pour élever le projet. Comment décririez-vous votre projet, Mes Pants de Queer? Antoine Vogler. Mes pants de queer, c'est une librairie par, pour et à propos des communautés LGBTQ2SAI+. On vend de la littérature autopubliée et des livres usagés. Tout est à 9 $ pour garder ça le plus accessible et pouvoir transmettre les savoirs qui sont dans ces livres-là. On récupère les dons de livres usagés. Si des lecteurs du Fugue ont des livres à donner, ils peuvent nous contacter. Dustin Ariel Segura Suarez. La vocation, ça a toujours été de rendre la littérature accessible, étant donné que c'est tellement cher, les romans. On voulait proposer une sélection qui soit de notre communauté et abordable, pour que tout le monde puisse en profiter. On a toujours aussi eu une vocation communautaire, de rassembler la communauté. D'avoir un local, ça nous a permis d'avoir des soirées de projection et des soirées de lancement. Aussi, on encourage le plus possible l'émergence de multiples libraires. Plus il y en a, mieux on se porte. Comment vous est venue l'idée de lancer cette librairie? Antoine Vogler. On a commencé en voyageant beaucoup. On visitait tout le temps les librairies LGBTQ partout où on allait et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait plus vraiment à Montréal qui avait pignon sur rue. Il y en a déjà eu plusieurs. L'androgyne, c'était pas mal la plus populaire. Mais il y avait aussi le Ménage à Trois, qui était sur Sainte-Catherine, qui est rendu au marché Saint-Michel. On voulait célébrer la littérature LGBTQ+, parce qu'on se rendait compte aussi en voyageant que beaucoup étaient localisés. Quand on allait à New York, à Madrid, à Nice, tu te rends compte qu'il y a des auteurs de ces endroits-là qui écrivent, mais qu'à Montréal, il n'y a pas cette plateforme-là qui permettait de partager les littératures. On a commencé par vendre des livres usagés, parce qu'on se rendait compte qu'il y en avait plein dans les thrift stores. On a bâti une culture de la littérature queer de même. On s'est dit, on va vendre ça le prix de la pinte. On a commencé, ça coûtait 7 $. Maintenant, on est rendu à 9 $. Vu que ça coûtait cher d'avoir un local, on vendait ça en ligne et on faisait la livraison. Après 3 ans et demi, on avait beaucoup de livres chez nous. Moi, je suis photographe et on a un studio. On s'est dit, on va mettre une librairie ici. De fil en aiguille, les gens ont commencé à connaître le projet et à nous donner des livres. Quelles sont vos ambitions pour cette librairie? Jusqu'où voudriez-vous qu'elle se rende? Antoine Vogler. Je pense que d'avoir un emploi à un moment donné, ça serait le fun. Mais on va pas se mentir, tu fais pas d'argent avec des livres. Dustin Ariel Segura Suarez. Moi, je me dis quand même que si on continue de la même manière qu'on le fait, lentement, à notre rythme, en plaçant bien les choses à leur place, avant de se lancer dans quoi que ce soit. Idéalement, ça serait de rendre ça assez grand pour que ça nous emmène à un revenu assez intéressant pour pouvoir en vivre. Antoine Vogler. Ce qu'on voit next, ça serait de commencer à publier des recueils, d'avoir une petite maison d'édition qui serait associée à la librairie. Le deuxième objectif, ça serait aussi d'avoir un pan artistique, genre une galerie d'art, pour faire des événements, des vernissages, des petites expos. En fait, c'est vraiment de juste avoir un espace que les gens vont utiliser et s'approprier. Avez-vous des suggestions littéraires LGBTQ+, pour nos lecteurs et lectrices? Dustin Ariel Segura Suarez. C'est mon cœur de Chilien qui va parler, mais je dirais Pedro Lemebel, qui n'est malheureusement pas un auteur qui a été traduit encore beaucoup. Il y a juste une seule de ses œuvres qui a été traduite en français. « Je tremble, ô matador ». C'est un artiste qui faisait aussi de la performance, qui a été super important pour la culture queer dans les années 80, en pleine dictature au Chili. Il s'est toujours donné le droit d'exister de la manière qu'il voulait exister. Il avait un collectif aussi, dans lequel il faisait des performances pour critiquer la position du gouvernement par rapport aux personnes issues de la communauté LGBTQ+, mais aussi par rapport au traitement du sida. Il y avait eu peu d'interventions du gouvernement. Sa littérature est très riche. Il vient du Chili populaire, donc il ne se place pas au-dessus des autres et a cette manière-là de refléter le vécu du peuple qu'il a entouré dans son quartier. Il raconte avec une sensibilité directe, mais très belle. La manière dont il manie les mots, je trouve ça particulièrement inspirant. Info, mes pants de queer, 2025 rue Parthenay, suite 241. Site web, mes pants de queer, en un mot, .com. C'était « Mes pants de queer », un texte de Philippe Granger, paru le 23 avril 2025 dans le magazine Fugue.
Les libraires craquent, essais étrangers, 8 suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 8 avril 2025 dans Les libraires. 1. Le roman des artistes, tome 1, Romantisme, par Dan Franck, édition Grasset. Des classiques, on en lit, on en écoute, on en admire, mais on oublie souvent que derrière ces œuvres, il y a eu chaque fois une époque avec ses agitations, ses révoltes et ses progrès qui ont alimenté le désir de création de femmes et d'hommes. Dans ce premier tome, 4 à venir, Dan Franck raconte la période romantique en France, 1815-1848. Ces personnages, ce sont des géants. Hugo, Sand, Delacroix, Balzac, Chopin, Dumas, Liszt. Terriblement humains. On se côtoie, on s'admire, on se déteste, on s'écharpe et on couche beaucoup. Chemin faisant, on rejette les règles anciennes, on invente la littérature et l'art moderne, et on prend les armes au besoin. C'est captivant, ça se lit comme un roman, et on a déjà hâte au deuxième tome. Une suggestion d'André Bernier de la librairie L'Option. 2. Ligne de fuite. L'exil des collaborateurs français après 1945 par Marc Bergère. Édition PUF. Partons, décampons. Ils étaient des milliers de Français et de Françaises en 1944 à faire le choix de fuir face à la libération et une imminente épuration. S'appuyant sur des archives inédites, Marc Bergère propose une première histoire totale de cette galopade des perdants prenant de multiples formes. On cherche asile à l'extérieur, en Argentine, en Espagne, en Irlande ou, comme ce Bernonville ou ce Simenon, au Canada. Inspirant ce précédent, Vichy au Canada, l'exil québécois de collaborateurs français du même auteur. On fuit, pour la grande majorité, à l'intérieur, semi-vivant parmi les vivants. Citoyens clandestins, cherchant à se faire oublier, trouvant parfois refuge et intériorisant l'exil, à l'exemple de l'académicien Michel Mort dans l'écriture. aucune de ces fuites, à l'imposant potentiel romanesque, ne se ressemble vraiment, mais toutes choquent par un point commun, l'absence de remords ou de repentir de ces misérables. Troublant. Une suggestion de Christian Vachon, de la librairie Pantoute, à Québec. 3. Résister, par Salomé Saqué, édition Payot. Une bouffée d'espoir dans la morosité ambiante. Ce petit essai de la journaliste Salomé Saqué se lit, se relit et se partage, dans l'urgence, face à la montée en flèche de l'extrême droite, un peu partout sur le globe. Parce que les heures les plus sombres de notre histoire devraient nous avoir appris qu'on ne peut pas faire l'économie des valeurs de tolérance et de respect qui constituent le socle de notre démocratie. L'ouvrage, scindé en courts chapitres, propose d'abord un tour d'horizon des menaces fascistes en France, pour ensuite se concentrer sur la bataille culturelle menée par l'extrême droite, puis sur les pistes de solutions à notre disposition pour y résister. Les parallèles entre la France et le Québec se font d'eux-mêmes. Une suggestion de Marie-Lou Lebel-Dupuis de la coopérative Le Guélion. 4. Le double, Voyage dans le monde miroir, par Naomi Klein, édition Actes Sud. Dans cet essai percutant et infiniment actuel, Naomi Klein nous livre une réflexion sur les milieux de l'extrême droite conspirationniste, sur les dérives d'Internet, ainsi que sur la figure du double à partir d'une expérience personnelle aussi troublante que dérangeante, la confusion permanente établie entre elle-même et Naomi Wolf. C'est par le biais des réseaux sociaux et des algorithmes que la sociologue et politologue se voit constamment associée à cette figure publique des États-Unis à la sauce Trump, ex-féministe devenue une conspirationniste emblématique. Cette véritable plongée dans le monde miroir, qui ne cesse de subvertir la réalité et la vérité, nous conduit à vouloir défendre, plus que jamais, la démocratie et ses outils. Une suggestion de Flore Théry de la Maison des Feuilles à Montréal. 5. Méfiez-vous des femmes insomniaques, par Annabelle Habs, édition Artaud. À la suite des décès de son beau-père et de son père, à une semaine d'intervalle, juste avant Noël 2020, c'est l'onde de choc. Annabelle Habs perd le sommeil. La consommation de somnifères n'est pas sa tasse de thé. Au fil de ses recherches, lectures et expériences, elle découvre qu'elle a deux personnalités, une diurne, Annabelle de jour, et l'autre nocturne, Annabelle de nuit. Elle dévoile des pans de vie de femmes dont la philosophe du XVe siècle Laura Serretta, l'artiste Louise Bourgeois, l'écrivaine Virginia Woolf et bien d'autres qui font de l'insomnie et qui profitent de la nuit pour créer, se ressourcer, s'émerveiller, se vider du trop-plein d'émotions après des événements traumatisants. Annabelle de nuit, elle, expérimentera différents moyens pour vivre pleinement ses insomnies. À vous de les découvrir. Une suggestion de Michel Roy, de la librairie Le Fureteur. 6. Ailleurs chez moi, par Douglas Kennedy, édition Bellefond. L'écrivain Douglas Kennedy, connu pour ses œuvres de fiction, nous offre un livre des plus passionnants et complètement d'actualité avec « Ailleurs chez moi », essai biographique, social et politique, qui arpente non seulement les rues mouvementées de son New York adoré, mais aussi son passé familial un peu bancal. Passionné de jazz, de littérature et de cinéma, l'auteur nous fait part des constats inhérents à une vie de globe-trotteur qui n'a jamais cessé de lui ramener son américanité en plein visage. Et trop souvent, pour le pire. Une constante qui a poussé Kennedy à interroger les moments clés de l'histoire états-unienne et à fouiller les contradictions de ce territoire dont l'influence sur le monde fait trembler plus que jamais. Une suggestion de Josiane Letourneau de la librairie Médiapole. 7. Arbre, explorer le monde des racines aux cimes par Tony Kirkham, édition Faydon. Sous la judicieuse direction de Tony Kirkham, ancien directeur des célèbres Kew Gardens, scientifique, historien et historienne, et artiste, s'unissent pour rendre un hommage à nos compagnons de toujours, les arbres. Convoquant la quintessence des savoirs du vivant et la finesse d'analyse de l'histoire de l'art, ce livre splendide rassemble plus de 350 pages d'œuvres assemblées en tandem par affinité élective. Les textes qui accompagnent chaque œuvre sont d'une grande pertinence et donnent envie de courir au musée ou à la forêt la plus proche. On le savoure chaque jour brièvement, nous laissant sustenter par la beauté de ses ramages, nourri esthétiquement et ragaillardi dans notre volonté de défendre à tout prix ses amis à l'ombre salutaire. Une suggestion de Thomas Dupont-Buist de la librairie Gallimard. 8. Imperator, une histoire des empereurs de Rome par Mary Bird, édition du Seuil. Encore une fois, Mary Bird s'adresse à tous et toutes pour faire connaître le monde qui la passionne depuis toujours. Si ici on s'intéresse au sommet du monde romain, ses empereurs tout de pourpre et de folie, on verra que, comme à son habitude, Mary Bird ne s'en laisse pas compter par les ors de l'Empire, pourfend les légendes noires ou dorées et redonne à ses hommes et à leur entourage des dimensions très humaines. Sous sa plume, le monde du palais est vivant, souvent touchant ou même pathétique, parfois vertigineux, toujours passionnant. Une suggestion de Quentin Valut de la Maison des Feuilles à Montréal. C'était Les libraires crack, essais étrangers, 8 suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 8 avril 2025 dans Les libraires.